As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
9e partie de La Belle et la Bête. Cet enregistrement fait partie du domaine public. La Belle et la Bête, de Gabrielle Suzanne de Villeneuve. 9e partie. Le prince, qui par ordre de la fée avait gardé le silence pendant tous ses discours, ne fut pas le maître de le garder plus longtemps, et son respect à des ordres si fâcheux ne fut plus capable de le contenir. Il se jeta aux pieds de la fée et de sa mère. Il les pria avec la plus vive instance de ne le pas rendre plus malheureux qu'il n'était en éloignant la belle et en le privant du bonheur d'être son époux. À ces mots, la belle, le regardant d'un air rempli de tendresse, mais accompagné d'une noble fierté, lui dit
« Je ne puis, prince, vous cacher les sentiments que j'ai pour vous. Votre désenchantement en est une preuve, et je les voudrais en vain déguiser. J'avoue, sans rougir, que je vous aime plus que moi-même. Pourquoi le dissimulerais-je ? On ne doit désavouer que les mouvements criminels. Les miens sont remplis d'innocence et sont autorisés par le consentement de la généreuse fée à qui vous et moi sommes si redevables. Mais si j'ai pu me résoudre à y renoncer, quand j'ai cru que mon devoir m'ordonnait de sacrifier à la bête, vous devez être persuadé que je ne me démentirai pas en cette occasion où il ne s'agit plus de l'intérêt d'un monstre, mais du vôtre. Il me suffit de savoir qui vous êtes et qui je suis, pour renoncer à la gloire d'être votre épouse. J'ose dire même que, convaincue par vos prières, elle vous accorderait le consentement que vous désirez. Elle ne serait rien pour vous, puisque dans ma raison et dans mon amour même, vous trouveriez un obstacle insurmontable. Je le répète, je ne demande pour toute faveur que de retourner dans le sein de ma famille, où je conserverai un souvenir éternel de vos bontés et de votre amour. »
Généreuse fée, s'écria le prince en joignant les mains d'une façon suppliante. « De grâce, empêchez que la belle ne parte, et rendez-moi plutôt ma monstrueuse figure. À cette condition, je resterai son époux. Elle a donné sa foi à la bête, et je préfère cet avantage à tous ceux qu'elle me procure, si je n'en puis jouir sans les payer si chèrement. » La fée ne répondait rien. Elle regardait fixement la reine qui était touchée de tant de vertus, mais dont l'orgueil n'était pas ébranlé. La douleur de son fils l'affligeait, sans pouvoir oublier que la belle était fille d'un marchand, et rien davantage. Cependant, elle appréhendait le courroux de la fée, dont l'air et le silence marquaient assez l'indignation. Son embarras était extrême. N'ayant pas la force de dire un mot, elle craignait de voir finir d'une façon funeste une conversation dont l'intelligence protectrice était offensée. Personne ne parla pendant quelques moments, mais la fée enfin rompit le silence, et jetant un regard affectueux sur les amants, elle leur dit « Je vous trouve dignes l'un de l'autre. On ne pourrait sans crime songer à séparer tant de mérites. Vous resterez unis, c'est moi qui vous le promets. J'ai assez de pouvoir pour l'exécuter. » La reine à ces paroles frémit. Elle eut ouvert la bouche pour faire quelques représentations, mais la fée la prévint en lui disant « Pour vous, reine,
le peu de cas que vous faites d'une vertu dépouillée des vains ornements que vous estimez seule, m'autoriserait à vous faire des reproches amers. Mais je pardonne cette faute à la fierté que vous inspire le rang que vous tenez, et je ne prendrai pas d'autre vengeance que celle que je tire de la petite violence que je vous fais, de laquelle vous ne serez pas longtemps sans me rendre grâce. » La belle, à ces paroles, embrassa les genoux de la fée, et s'écria « Ah, ne m'exposez pas à la douleur de m'entendre reprocher toute ma vie que je suis indigne du rang où votre bonté me veut élever. Songez que le prince qui croit à présent que son bonheur consiste dans le don de ma main pensera peut-être comme la reine avant qu'il soit peu. » « Non, non, la belle, ne craignez rien, » reprit la fée. « Les malheurs que vous prévoyez ne peuvent arriver. Je sais un moyen sûr de vous en préserver, et quand le prince serait capable de vous mépriser après vous avoir épousée, il faudrait qu'il en cherchât un autre sujet que dans l'inégalité des conditions. Votre naissance n'est point inférieure à la sienne. L'avantage même est très considérable de votre côté, puisqu'il est vrai, dit-elle fièrement à la reine, que voilà votre nièce, et ce qui vous la doit rendre respectable, c'est qu'elle est la mienne, étant fille de ma sœur qui, comme vous, n'était pas esclave d'une dignité dont la vertu fait le principal lustre. Cette fée, sachant estimer le vrai mérite, fit honneur au roi de l'île heureuse, votre frère, de l'épouser. J'ai garanti le fruit de leurs amours des fureurs d'une fée qui voulait être sa belle-mère. Depuis qu'elle est née, je l'ai destinée pour épouse à votre fils. Je voulais, en vous cachant les faits de ma bonne volonté, donner à votre confiance le temps d'éclater. J'avais quelque sujet de croire que vous en auriez eu davantage pour moi. Vous pouviez vous en rapporter à mes soins sur le destin du prince. J'avais témoigné y prendre assez d'intérêt, et vous ne deviez pas appréhender que je l'exposasse à rien de honteux pour vous et pour lui. Je suis persuadée, madame, poursuivit-elle avec un sourire qui marquait encore quelque chose d'aigre, que vous ne pousserez pas le dédain plus loin et que vous voudrez bien nous honorer de votre alliance. » La reine, interdite et confuse, ne sut que répondre. Le seul moyen de réparer sa faute fut d'en faire un aveu sincère et d'en témoigner un vrai repentir. « Je suis coupable, généreuse fée, lui dit-elle. Vos bontés me doivent être de sûrs garants que vous ne laisseriez point faire à mon fils une alliance qui le dût déshonorer. Mais de grâce, pardonnez aux préjugés d'une naissance illustre. Il me disait que le sang royal ne se pouvait mésallier sans honte. Je mériterais, je l'avoue, que pour me punir, vous donnassiez à la belle une belle-mère plus digne de la posséder. Mais vous prenez un intérêt trop généreux à mon fils pour le rendre la victime de ma faute. Quant à vous, chère belle, continua-t-elle en l'embrassant tendrement, vous ne devez pas me vouloir du mal de ma résistance. Elle n'était causée que par le désir de donner mon fils à ma nièce, que la fée m'avait assuré être vivante malgré les apparences du contraire. Elle m'en avait fait une peinture si charmante que, sans vous connaître, je vous aimais assez tendrement pour m'exposer à l'indignation de l'intelligence afin de vous conserver le trône et le cœur de mon fils. » En disant cela, elle recommença ses caresses, et la belle les reçut avec respect. Le prince, de son côté, ravi de cette agréable nouvelle, en marqua sa joie par ses regards. « Nous voilà tous contents, » dit la fée, « et pour terminer cette heureuse aventure, il ne nous manque que le consentement du roi, père de la princesse, mais nous le verrons bientôt lui-même. » La belle la supplia de permettre que celui qui l'avait élevée et à qui elle avait cru être redevable de la vie fut présent à son bonheur. « J'aime ses soins, » dit la fée. « Ils sont dignes d'une belle âme, et puisque vous le souhaitez, je me charge de le faire avertir. » Alors, prenant la reine par la main, elle l'emmena sous prétexte de lui faire voir le palais enchanté. C'était pour laisser aux nouveaux époux la liberté de s'entretenir pour la première fois sans contrainte et sans le secours de l'illusion. Ils voulurent les suivre, mais elle le leur défendit. Le bonheur dont ils allaient jouir les pénétrait d'une joie égale. Ils ne pouvaient douter de leur tendresse mutuelle. La conversation confuse et peu suivie, les protestations renouvelées 100 fois, en étaient pour eux un témoignage plus certain que ne l'aurait été un discours plein d'éloquence.
après avoir épuisé ce que l'amour fait dire en semblable occasion à des personnes de qui le cœur est parfaitement touché, la belle demanda à son amant par quel malheur il avait été si cruellement métamorphosé en bête. Elle le pria encore de l'instruire de tous les événements qui avaient précédé sa cruelle métamorphose. Le prince, qui pour avoir changé de figure n'avait pas moins d'empressement à lui obéir, et ne voulant pas différer davantage, lui parla dans ces termes. Histoire de la bête. Le roi, mon père, avant que je vinsse au monde, était mort. La reine ne se fût pas consolée de sa perte si l'intérêt de l'enfant qu'elle portait n'eût combattu sa douleur. Ma naissance lui causa une extrême joie. Ce fut à la douceur d'élever le fruit de l'amour d'un époux si chèrement aimé que le bonheur de dissiper son affliction était réservé. Les soins de mon éducation et la peur de me perdre l'occupèrent uniquement. Elle fut secondée dans ses vues par une fée de sa connaissance qui lui marqua n'avoir que de l'empressement à me préserver de toutes sortes d'accidents. La reine lui en sut un gré infini. Mais elle ne fut pas contente quand elle lui demanda de me remettre entre ses mains. Cette intelligence n'avait pas la réputation d'être bonne. Elle passait pour capricieuse dans ses faveurs. On la craignait plus qu'on ne l'aimait. Et quand ma mère eût été même convaincue de la bonté de son caractère, elle ne se serait pas déterminée à me perdre de vue. Cependant, conseillée par des personnes prudentes, de peur d'essuyer les funestes effets du ressentiment de cette fée vindicative, elle ne la refusa pas tout à fait. En me livrant à elle volontairement, il n'y avait pas d'apparence qu'elle me fît du mal. L'expérience avait fait connaître qu'elle ne se plaisait à nuire qu'à ceux de qui elle se croyait offensée. La reine en convenait, et elle n'avait que la répugnance de se voir privée du plaisir de me regarder continuellement avec des yeux de mère, qui lui faisaient découvrir en moi des grâces que je ne devais qu'à sa prévention. Elle était encore irrésolue sur ce qu'elle avait à faire, lorsqu'un voisin puissant crut qu'il lui serait facile de s'emparer des états d'un enfant gouverné par une femme. Il était entré dans mon royaume avec une armée formidable. La reine en leva une à la hâte, et avec un courage au-dessus de son sexe, elle se mit à la tête de ses troupes et alla défendre nos frontières. Ce fut alors que, forcée de me quitter, elle ne put se dispenser de confier à la fée le soin de mon éducation. Je fus remise entre ses mains, après qu'elle eut fait le serment le plus sacré pour elle, que sans aucune difficulté, elle me ramènerait à la cour aussitôt que la guerre serait finie, que ma mère comptait être terminée dans un an au plus tard. Mais malgré tous les avantages qu'elle remporta, il ne lui fut pas possible de revoir si tôt notre capitale. Pour profiter de sa victoire, après avoir chassé l'ennemi hors de nos états, elle le poursuivit dans les siens. Elle prit des provinces entières, gagna des batailles et réduisit enfin le vaincu à demander une paix honteuse qu'il n'obtint qu'à des conditions fort dures. Après ces heureux succès, la reine partit triomphante et goûta d'avance le plaisir de me revoir. Mais ayant appris sur sa route que contre la foi des traités, l'indigne ennemi avait fait égorger nos garnisons et repris presque toutes les places qu'il avait été obligé de céder, elle fut contrainte de retourner sur ses pas. L'honneur l'emportait sur l'empressement qui la rappelait auprès de moi, et elle forma la résolution de ne point finir la guerre, qu'elle n'eût mis son ennemi hors d'état de lui faire de nouvelles trahisons. Le temps qu'elle employa à cette seconde expédition fut fort considérable. Elle s'était flattée que 2 ou 3 campagnes suffiraient. Mais elle avait à combattre contre un adversaire aussi habile que fourbe. Il eut l'industrie de faire révolter des provinces ou de débaucher des bataillons entiers, ce qui força la reine à ne se pas éloigner de son armée pendant 15 ans. Elle ne pensa point à m'appeler auprès d'elle. Elle se flattait toujours d'être à son dernier mois d'absence et sur le point de venir me revoir. Cependant, la fée, conformément à sa parole, avait donné tous ses soins pour mon éducation. Depuis le jour qu'elle m'avait reconduit dans mon royaume, elle était restée auprès de moi et n'avait cessé de me donner des marques de son attention sur ce qui concernait ma santé et mes plaisirs. Par mon respect, je lui marquai combien j'étais sensible à ses bontés. J'avais pour elle les mêmes égards et les mêmes empressements que j'eus eu pour ma mère, et la reconnaissance m'inspirait en sa faveur des sentiments aussi tendres. Pendant quelque temps, elle en parut satisfaite. mais elle fit un voyage de quelques années, dont elle ne me communiqua point le secret, et à son retour, admirant l'effet de ses soins, elle conçut pour moi une tendresse différente de celle d'une mère. Elle m'avait permis de lui donner ce nom, mais alors elle me le défendit. J'obéis, sans m'informer des raisons qu'elle pouvait avoir, ni la soupçonner de ce qu'elle exigeait de moi. Je voyais bien qu'elle n'était pas contente, mais pouvais-je imaginer la raison des plaintes qu'elle faisait sans cesse sur mon ingratitude? J'étais d'autant plus surpris de ses reproches que je ne croyais pas les mériter. Ils étaient toujours suivis ou précédés des plus tendres caresses. J'avais trop peu d'expérience pour les entendre. Il fallait qu'elle s'expliquât. Elle le fit un jour que je lui témoignais un chagrin mêlé d'impatience touchant le retardement de la reine. Elle m'en fit quelques reproches, et sur ce que je l'assurais que ma tendresse pour ma mère n'altérait en aucune manière celle que je lui devais, elle me répondit qu'elle n'en était point jalouse, quoiqu'elle eût fait beaucoup pour moi, et qu'elle eût résolu de faire encore davantage. Mais elle ajouta que pour donner un libre cours au dessein qu'elle formait en ma faveur, il fallait que je l'épousasse, qu'elle ne voulait pas être aimée de moi comme une mère, mais comme une amante, qu'elle ne doutait pas que je ne reçusse sa proposition avec reconnaissance, et que je n'eusse beaucoup de joie à l'accepter, qu'il n'était donc plus question que de m'abandonner au plaisir que devait me causer la certitude de posséder une si puissante fée qui me garantirait de tous les dangers et me procurerait une vie pleine de charmes et comblée de gloire. À cette proposition, je fus embarrassé. Élevé dans mon propre pays, je connaissais assez le monde pour avoir observé parmi les personnes mariées qu'il y en avait d'heureuses par la conformité d'âge et d'humeur, et d'autres très à plaindre, parce que des circonstances différentes avaient mis entre elles une antipathie qui pouvait faire leur supplice. La fée, vieille, laide et d'un caractère hautain, ne me faisait pas espérer une destinée aussi agréable qu'elle me la promettait. J'étais bien éloigné de sentir pour elle ce qu'il faut sentir pour une personne avec qui l'on veut passer agréablement sa vie. Je ne voulais pas d'ailleurs m'engager dans un âge si peu avancé. Je n'avais d'autre passion que celle de revoir la reine et de me signaler à la tête de ses armées. Je soupirais après ma liberté. C'était la seule chose qui me pouvait flatter et la seule qu'elle me refusait. Je l'avais souvent supplié de me permettre d'aller partager les périls où je savais que la reine se précipitait pour mes intérêts. Mais mes prières jusqu'à ce jour furent inutiles. Pressée de répondre à l'étonnante déclaration qu'elle me faisait, je fus embarrassée. Je la fis ressouvenir qu'elle m'avait souvent dit qu'il ne m'était pas permis de disposer de moi sans les ordres de ma mère et pendant son absence. « C'est comme je l'entends, » reprit-elle. « Je ne voudrais pas vous obliger d'en user autrement. Il me suffit que vous vous en rapportiez à la reine. » Fin de la 9e partie, lu par Ezoa, en Belgique, en mars 2010. Dixième partie de La Belle et la Bête. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. La Belle et la Bête, de Gabrielle Suzanne de Villeneuve. Dixième partie. Je vous ai déjà dit, belle princesse, que je n'avais pu obtenir de cette fée la liberté d'aller trouver la reine ma mère. Le désir qu'elle avait d'avoir son consentement, qu'elle s'attendait d'obtenir, l'obligea de m'accorder, sans même le lui demander, ce qu'elle m'avait toujours refusé. Mais elle y mit une condition qui ne me fut pas agréable. Ce fut de m'accompagner. Je fis mes efforts pour l'en détourner. Il me fut impossible, et nous partîmes suivis d'une nombreuse escorte. Nous arrivâmes la veille d'une affaire décisive. La reine avait mis les choses si bien en état que le lendemain devait décider du sort de l'ennemi, qui n'avait plus de ressources s'il perdait cette bataille. Ma présence causant dans le camp un extrême plaisir ne fit qu'augmenter le courage des troupes qui, de mon arrivée, tirèrent un augure favorable pour la victoire. La reine en pensa mourir de joie. Mais après ce premier transport, le plaisir qu'il avait causé fit place aux plus vives alarmes. Pendant que je me flattais du doux espoir d'acquérir de la gloire, la reine frémissait à la vue du danger où j'allais m'exposer. Trop généreuse pour vouloir m'en détourner, elle me pria, au nom de toute sa tendresse, de me ménager autant que l'honneur le pourrait permettre. Elle supplia la fée
de ne me pas abandonner en cette occasion. Ces sollicitations n'étaient pas nécessaires. La trop susceptible intelligence appréhendait autant que la reine, parce qu'elle n'avait point de secret pour me préserver des hasards de la guerre. Au reste, en m'inspirant dans un instant l'art de commander une armée et la prudence convenable pour un si grand emploi, elle fit beaucoup. Les chefs les plus expérimentés m'admirèrent. Devenu maître du champ de bataille, la victoire fut complète. J'eus le bonheur de sauver la vie à la reine et d'empêcher qu'elle ne fût prisonnière de guerre. Les ennemis furent poursuivis avec tant de vigueur qu'ils abandonnèrent leur camp, perdirent leurs bagages et plus des trois quarts de leur armée, tandis que nous n'avions fait qu'une perte très médiocre. Une légère blessure que je reçus fut le seul avantage dont l'ennemi put se vanter. Mais cet événement, faisant craindre à la reine que, si la guerre continuait, il ne m'arrivât de plus grand malheur, malgré les vœux de toute l'armée, de qui ma présence avait redoublé la fierté, elle fit la paix à des conditions même plus avantageuses que les vaincus n'eussent osé l'espérer. Peu de temps après, nous reprîmes le chemin de la capitale. Les occupations de la guerre et la présence éternelle de ma vieille conquête m'avaient empêché de prévenir la reine sur cet incident. Elle eut la surprise entière lorsque cette mégère lui dit sans détour qu'elle était résolue de m'épouser incessamment. Cette déclaration se fit dans ce même palais, non pas aussi superbe qu'il l'est aujourd'hui. C'était la maison de plaisance du feu roi, à l'embellissement de laquelle mille occupations n'avaient pu lui permettre de penser. Ma mère, qui chérissait ce qu'il avait aimé, le choisit par préférence pour s'y délasser des fatigues de la guerre. À la déclaration de la fée, ne pouvant se rendre maîtresse de son premier mouvement et ne sachant pas l'art de feindre, elle s'écria « Songez-vous, madame, au bizarre assortiment que vous me proposez ?» Il est vrai qu'il était impossible d'en trouver un plus ridicule. Outre la vieillesse presque décrépite de la fée, elle était laide à faire peur. Ce n'étaient pas les années qui l'avaient enlaidie. Si elle eût eu de la beauté dans sa jeunesse, elle aurait pu la conserver par le secours de son art. Mais laide naturellement, sa puissance ne lui pouvait donner des beautés artificielles pour plus d'un jour tous les ans, et ce jour passé, elle revenait dans son premier état. La fée fut surprise de la déclaration de la reine. Son amour-propre lui cachait tout ce qu'elle avait d'affreux, et elle comptait que sa puissance devait suppléer aux appâts dont elle était dépourvue. « Qu'entendez-vous ? » dit-elle à la reine, « par ce terme de bizarre assortiment. Songez qu'il y a de l'imprudence à m'en faire souvenir lorsque je daigne l'oublier. Vous ne devez penser qu'à vous féliciter d'avoir un fils assez aimable pour que son mérite me le fasse préférer au plus puissant génie de tous les éléments. Et puisque je daigne m'abaisser jusqu'à lui, recevez avec respect l'honneur que j'ai la bonté de vous faire, sans me donner le temps de m'en dédire. » La reine, aussi fière que la fée, n'avait jamais compris qu'il y eût un rang au-dessus du trône. Elle faisait peu de cas de l'honneur prétendu que lui offrait l'intelligence. Ayant toujours commandé à ce qu'il approchait, elle n'ambitionnait point davantage d'avoir une belle fille à qui il fallut rendre des respects. Ainsi, loin de répondre, elle resta comme immobile et se contenta d'avoir les yeux fixés sur moi. J'étais aussi surpris qu'elle, et la regardant du même air qu'elle me regardait, il ne fut pas difficile à la fée de connaître que notre silence exprimait naïvement des sentiments fort opposés à la joie qu'elle voulait nous inspirer. « Que signifie ce que je vois ? » dit-elle avec aigreur. « D'où vient que la mère et le fils ne disent rien ? Cette agréable surprise vous a-t-elle enlevé l'usage de la voix ? Ou seriez-vous assez aveugles et téméraires pour ne pas accepter mes offres ? Parlez, prince, me dit-elle. Serez-vous assez ingrat et assez imprudent pour mépriser ma bonté ? Ne consentez-vous pas dès ce moment à me donner la main ? Non, madame, je vous assure, repris-je avec précipitation, quoique j'aie une sincère reconnaissance de ce que je vous dois, je ne puis me résoudre à m'en acquitter de cette sorte. Et avec la permission de la reine, je ne veux pas si tôt perdre ma liberté. Donnez-moi tout autre moyen de reconnaître vos bontés. Je n'en trouverai point d'impossible. Mais pour celui que vous me proposez, dispensez-moi, s'il vous plaît, de l'employer, car... Comment, chétive créature ? Interrompit-elle avec fureur. Tu oses me résister ? Et vous, stupide reine, vous voyez sans indignation un tel orgueil ? Que dis-je ? Sans indignation ! C'est vous-même qui l'autorisez, puisque c'est dans vos regards insolents qu'il a puisé l'audace de sa réponse. »
La reine, déjà piquée des expressions méprisantes dont la fée s'était servie, ne fut plus maîtresse de se contenir, et jetant par hasard les yeux sur une glace devant laquelle nous étions, dans le temps que cette méchante fée la pressait encore,
« Que puis-je vous dire, reprit-elle, que vous n'eussiez dû vous représenter vous-même ? Daignez donc considérer sans prévention les objets que cette glace vous présente. Elle vous répondra pour moi. »
La fée comprit aisément ce que la reine voulait dire.
« C'est donc la beauté de ce précieux fils qui vous rend si vaine ? Lui dit-elle, et c'est ce qui m'expose à un refus honteux. Je vous parais indigne de lui. Eh bien, poursuivit-elle en élevant sa voix d'un ton furieux, après avoir donné tous mes soins à le rendre si charmant, il faut que je couronne mon ouvrage, et que je vous donne à toutes deux une matière aussi nouvelle que sensible pour vous faire souvenir de ce que vous me devez. Va, malheureux, me dit-elle, vante-toi de m'avoir refusé ton cœur et ta main, et fais-en le sacrifice à celle que tu trouveras en être plus digne que moi. » En disant ces mots, ma terrible amante me donna un coup sur la tête. Il fut si pesant que je tombai la face contre terre et que je me crus accablé par la chute d'une montagne. Tout courroucé de cette insulte, je voulus me relever, mais il me fut impossible. Le poids de mon corps était si lourd qu'il m'en empêcha. Tout ce que je pus faire fut de me soutenir sur mes mains, devenues en un instant d'horribles pattes dont la vue me fit apercevoir de mon changement. C'est le même sous lequel vous m'avez trouvé. Dans l'instant, je jetai les yeux sur la fatale glace, et il ne me fut plus permis de douter de ma cruelle et subite métamorphose. La douleur que j'en ressentis me rendit immobile. La reine, à ce tragique spectacle, fut hors d'elle-même. Pour mettre le dernier sceau à sa barbarie, cette furieuse fée me dit encore d'un air moqueur, « Va faire des conquêtes illustres et plus dignes de toi qu'une auguste fée. Et comme on n'a point besoin d'esprit quand on est aussi beau, je t'ordonne de paraître aussi stupide que tu es affreux et d'attendre dans cet état, pour reprendre ta première forme, qu'une fille belle et jeune vienne volontairement te trouver, quoiqu'elle soit persuadée que tu la doives dévorer. Il faut aussi, continua-t-elle, qu'après qu'elle ne craindra plus pour sa vie, elle prenne une assez tendre affection pour te proposer de l'épouser. Jusque à ce que tu rencontres cette rare personne, je veux que tu sois un sujet d'horreur pour toi-même et pour tous ceux qui te verront. Pour vous, trop heureuse mère d'un si aimable enfant, dit-elle à la reine, je vous avertis que si vous déclarez à quelqu'un que ce monstre est votre fils, il ne changera jamais de figure. C'est sans le secours de l'intérêt, de l'ambition et des charmes de son esprit qu'il la doit quitter. Adieu, ne vous impatientez point, vous n'attendrez pas longtemps. Il est assez mignon pour rencontrer bientôt un remède à ses maux. » « Ah, cruel ! S'écria la reine. « Si mon refus vous a offensé, vengez-vous sur moi. Prenez ma vie, mais ne détruisez pas votre ouvrage, je vous en conjure. « Vous n'y pensez pas, grande princesse, reprit la fée d'un ton ironique. Vous vous abaissez trop, je ne suis pas assez belle pour que vous daigniez m'entretenir. Mais je suis ferme dans mes volontés. Adieu, puissante reine, adieu, beau prince. Il n'est pas juste que je vous fatigue davantage de mon odieuse présence. Je me retire. Mais il me reste encore la charité de t'avertir, en se tournant de mon côté, qu'il faut oublier qui tu es. Si tu te laisses flatter par de vains respects ou par des titres fastueux, tu es perdu sans ressources et tu te perds encore si tu oses faire usage de ton esprit pour plaire dans la conversation. » Après ces mots, elle disparut et nous laissa, la reine et moi, dans un état qui ne se peut ni décrire ni imaginer. Les plaintes sont la consolation des malheureux. C'était pour nous un trop faible secours. Ma mère prit le parti de se poignarder et moi d'aller me précipiter dans le canal voisin. Nous allions l'un et l'autre, sans nous l'être communiqué, exécuter un si funeste dessein, mais une personne d'une taille majestueuse et dont l'air inspirait un respect profond vint nous faire connaître qu'il y a de la lâcheté à succomber aux plus grands accidents et qu'avec du temps et du courage, il n'est point d'infortune qu'on ne puisse vaincre. Mais la reine était inconsolable. Ses yeux versaient abondamment des larmes et ne sachant comment apprendre à ses sujets que leur souverain était changé en une horrible bête, elle n'avait pour unique ressource qu'un désespoir affreux. La fée, car c'en était une, et la même que vous voyez ici, sachant et sa douleur et son embarras, la fit souvenir de l'obligation indispensable où elle était de cacher à ses peuples cette effroyable aventure. Elle lui remontra que, sans s'abandonner au désespoir, s'il valait mieux chercher un remède à ses maux. « En est-il, s'écria la reine, qui soit assez puissant pour empêcher que les volontés d'une fée n'aient leur exécution ?»«
Oui, madame, répondit la fée, il y a des remèdes à tout. Je suis fée, comme celle de qui vous venez d'éprouver la fureur. Je n'ai pas moins de pouvoir. Il est vrai que je ne puis réparer à l'instant le mal qu'elle vous a fait, car il ne nous est pas permis de nous opposer directement à la volonté des unes et des autres. Celle qui cause votre infortune a plus vécu que moi. Parmi nous, l'ancienneté est un titre respectable. Comme elle n'a pu s'empêcher de mettre une condition qui peut faire cesser le charme funeste, je vous y servirai. J'avoue qu'il est difficile de terminer cet enchantement, mais la chose ne me paraît pas impossible, en y donnant tous mes soins. Voyez ce que je puis faire pour vous. » Alors, elle tira un livre de sa robe, et après avoir fait quelques pas mystérieux, elle s'assit devant une table et lut pendant un temps considérable avec une application qui la faisait suer. Ensuite, elle ferma son livre et rêva profondément. Elle avait un air si sérieux qu'elle nous donna lieu de croire pendant quelque temps que mon malheur était irréparable. Mais revenue de son extase et sa physionomie reprenant sa beauté naturelle, elle nous apprit qu'elle avait un remède à nos maux. « Il sera lent, me dit-elle, mais il sera certain. Gardez votre secret, qu'il ne transpire pas, et qu'aucun ne sache que vous êtes caché sous cet horrible déguisement, car vous m'ôteriez le pouvoir de vous en délivrer. Votre ennemi se flatte que vous le divulguerez, c'est pour cela qu'elle ne vous a pas ôté l'usage de la parole. » La reine trouva cette condition impossible, parce que deux de ses femmes avaient été présentes à cette fatale aventure et qu'elles étaient sorties toutes effrayées, ce qui n'aurait pas manqué d'exciter la curiosité des gardes et des courtisans. Elle s'imaginait que toute sa cour en était informée et que son royaume, et même tout l'univers, en serait bientôt instruit. Mais la fée savait un moyen pour empêcher que ce mystère n'éclatât. Elle fit alors quelques tours, tantôt gravement, quelquefois précipitées. Elle y joignit des mots que nous ne comprîmes pas, et finit par lever la main de l'air d'une personne qui commande avec un pouvoir absolu. Ce geste, joint à ce qu'elle avait prononcé, fut si puissant que tous ceux qui respiraient dans le château devinrent immobiles et furent changés en statues. Ils sont encore dans le même état, ce sont les figures que vous voyez en différents lieux et dans les mêmes attitudes où les ordres pressants de la fée les ont surpris. La reine, qui dans ce moment jeta les yeux sur la grande cour, s'aperçut du changement d'un nombre prodigieux de personnes. Le silence qui succéda tout d'un coup à l'agitation d'un grand peuple fit naître en son cœur des mouvements de compassion pour tant d'innocents qui perdaient la vie à cause de moi. Mais la fée la rassura en lui disant qu'elle ne laisserait ses sujets en cet état qu'autant que leur discrétion serait nécessaire. C'est une précaution dont il fallait user. Mais elle promit qu'elle les dédommagerait et que le temps qu'ils passeraient ainsi ne serait pas compté sur leurs jours. Ils rajeuniront d'autant, ainsi que votre pitié cesse, dit la fée à la reine. Laissons-les ici avec votre fils. Il y sera en sûreté, parce que je viens d'élever des brouillards si épais aux environs de ce château qu'il sera impossible d'y pénétrer que lorsque nous le jugerons à propos. Je vais vous remettre, continua-t-elle, où votre présence est nécessaire. Vous avez à craindre des mouvements de la part de vos ennemis. Ayez soin de publier que la fée qui a élevé votre fils l'a retenu auprès d'elle pour un important dessein et qu'elle a gardé toutes les personnes qui vous ont suivi. Ce ne fut pas sans répandre des larmes que ma mère se vit obligée de me quitter. La fée lui renouvela les assurances de veiller toujours sur moi et lui protesta que je n'avais qu'à souhaiter pour voir accomplir mes désirs. Elle ajouta que mes malheurs finiraient, pourvu qu'elle ou moi n'immissions pas d'obstacle par quelque trait d'imprudence. Toutes ces promesses ne furent pas capables de consoler ma mère. Elle eût désiré rester auprès de moi et laisser à la fée, ou à celle qu'elle jugerait le plus digne, le soin de gouverner son royaume. Mais les fées commandent avec empire et veulent qu'on leur obéisse. Ma mère, craignant par un refus d'augmenter mes infortunes et de me priver des secours de cette intelligence bienfaisante, consentit à tout ce qu'elle exigea d'elle. Elle vit arriver un beau char. Il était tiré par les mêmes cerfs blancs qui l'ont amené aujourd'hui. La fée fit monter la reine auprès d'elle. À peine eut-elle le temps de m'embrasser. Ses intérêts l'appelaient ailleurs, et elle était avertie qu'un plus long séjour dans ces lieux m'aurait nui. Elle fut conduite avec une vitesse extraordinaire où son armée était campée. On n'y fut point étonné de la voir arriver dans cet équipage. Chacun la croyait avec la vieille fée, parce que celle-ci qui l'accompagnait ne se fit pas connaître, et repartit aussitôt. Ce fut pour se rendre dans ces lieux, que dans un instant elle embellit de tout ce que son art et son imagination lui purent fournir. Cette obligeante fée me permit d'y ajouter encore tout ce qui me ferait plaisir, et après avoir fait pour moi tout ce qu'elle pouvait, elle me quitta, en m'exhortant à prendre courage, et en me promettant de venir de temps en temps m'informer des espérances qu'elle avait conçues en ma faveur. Fin de la 10e partie, enregistrée par Ezoy, en Belgique, en avril 2010. Onzième partie de La Belle et la Bête. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. La Belle et la Bête, de Gabrielle Suzanne de Villeneuve. Onzième partie. Je paraissais être seul dans le palais. Cependant, je ne l'étais que par les yeux. On me servait comme au milieu de ma cour, et mes occupations furent à peu près les mêmes que celles que vous eûtes dans la suite. Je lisais, j'allais au spectacle, je cultivais un jardin que j'avais fait en m'amusant, et les agréments me suivaient dans tout ce que j'entreprenais. Ce que je plantais ne mettait pas plus d'un jour à acquérir sa perfection. Il n'en a pas fallu davantage au berceau de roses à qui je dois le bonheur de vous voir ici. Ma bienfaitrice me venait voir fort souvent. Ses promesses et sa présence adoucissaient mes peines. La reine, par son moyen, avait de mes nouvelles, et j'avais des siennes. Un jour, je vis arriver la fée. La joie brillait dans ses yeux. Elle me dit « Cher prince, le moment de votre bonheur approche. » Alors elle m'apprit que celui que vous croyez votre père avait passé la nuit fort mal à son aise dans la forêt. Elle me rendit compte en peu de mots de l'aventure qu'il avait fait mettre en chemin sans m'instruire de la vérité de votre naissance. Elle m'apprit que ce bonhomme était forcé de venir chercher un asile contre les maux qu'il avait endurés depuis 24 heures. « Je vais, me dit-elle, donner ordre pour sa réception. Il faut qu'elle soit agréable. Il a une fille charmante. Je prétends que ce soit elle qui vous délivre. J'ai fait attention aux conditions que ma cruelle compagne a mises à votre désenchantement. C'est un bonheur de ce qu'elle n'a pas ordonné que celle qui doit vous délivrer vienne ici par amour pour vous. Au contraire, elle a dit qu'elle devait craindre la mort et même s'y exposer volontairement. J'imagine un moyen pour l'obliger à cette démarche. Ce sera de lui faire croire que la vie de son père est en danger et qu'elle n'a point d'autre moyen de le sauver. Je sais que, pour ne point causer de dépense à ce vieillard, elle ne lui a demandé qu'une rose, tandis que ses sœurs l'ont accablée de commissions indiscrètes. Lorsqu'il en trouvera l'occasion favorable, il la satisfera. Cachez-vous sous le berceau, et le saisissant dès qu'il aura commencé à cueillir des roses, faites-lui craindre que la mort ne soit la punition de son audace, à moins qu'il ne vous donne une de ses filles, ou plutôt qu'elle ne se donne elle-même, suivant l'ordre prescrit par notre ennemi. Cet homme, outre celle que je vous destine, a 5 autres filles. Aucune d'elles n'est assez généreuse pour racheter les jours de leur père au prix de la sienne. La seule belle est capable de cette grande action. J'exécutai exactement les ordres de la fée. Vous savez, belle princesse, quel en fut le succès. Le marchand, pour sauver sa vie, me promit ce que je lui demandais. Je le vis partir sans pouvoir me persuader qu'il reviendrait avec vous. Je le désirais, et je n'osais m'en flatter. Que de maux j'ai souffert pendant tout le mois qu'il me demanda. Je ne désirais d'en voir la fin que pour être plus certain de mon malheur. Je ne pouvais m'imaginer qu'une jeune personne, belle et aimable, eût le courage de venir chercher un monstre dont elle croyait devenir la proie. Quand elle eut eu assez de fermeté, il fallait qu'elle demeurât avec moi, sans qu'il lui fût permis de se repentir de sa démarche, et cela me paraissait un obstacle invincible. D'ailleurs, comment aurait-elle pu supporter ma présence sans mourir de frayeur? Je passai ma misérable vie au milieu de cette triste réflexion, et jamais je ne fus plus à plaindre. Cependant, le mois s'écoula, et ma protectrice m'annonça votre arrivée. Vous vous souvenez sans doute de la pompe avec laquelle vous fûtes reçu, n'osant par des discours vous marquer ma joie. Pour vous en donner des marques, j'empruntai le secours de la magnificence. La fée, pleine d'attention pour moi, me défendit de me faire connaître, quelque frayeur que je puisse vous inspirer, ou quelque bonté que vous me témoignassiez. Il ne m'était pas permis de chercher à vous plaire, ni de vous marquer de l'amour, et enfin de me découvrir. Je ne pouvais que me retrancher sur une excessive bonté, car par bonheur la maligne fée avait oublié de me défendre de vous en donner des preuves. Cette loi me parut dure, mais il m'y fallut souscrire, et je formai la résolution de ne me présenter devant vous que quelques moments par jour, de fuir les conversations liées pour empêcher que mon cœur ne se livrât à la tendresse. Vous arrivâtes, charmante princesse, et le premier coup d'œil que je jetai sur vous produisit en moi un effet tout opposé à celui que ma monstrueuse figure devait faire en vous. Vous voir et vous aimer à l'instant fut la même chose pour moi. N'entrant qu'en tremblant dans votre appartement, ma joie fut excessive de voir que vous souteniez ma vue d'un air plus intrépide que je ne la soutenais moi-même. Vous me fîtes un plaisir infini quand vous me déclarâtes que vous vouliez bien demeurer avec moi. Par un effet de l'amour-propre, qui me suivait jusque sous la plus épouvantable forme, je crus m'apercevoir que vous ne me trouviez pas aussi hideux que vous vous y étiez attendu. Votre père partit content. Mais ma douleur redoublait lorsque je pensais que je ne devais vous plaire que par la seule bizarrerie de votre goût. Votre maintien, vos discours aussi sages que modestes, tout en vous me faisait connaître que vous n'agissiez que par des principes que la raison et la vertu vous dictaient. C'est ce qui ne me permettait pas de me flatter de l'espérance d'un heureux caprice. J'étais au désespoir de ne pouvoir employer auprès de vous d'autres termes que ceux que la fée m'avait dictés et qu'elle avait choisis exprès, bas et puérils. En vain je lui représentai qu'il n'était pas naturel que vous acceptassiez la proposition de coucher avec moi. À cela, elle ne me répondit rien autre chose que « patience, persévérance, où tout est perdu ». Pour vous dédommager de ma ridicule conversation, elle m'assura qu'elle allait vous donner toutes sortes de plaisirs et à moi l'avantage de vous voir continuellement, sans vous épouvanter et sans être forcée de vous dire des impertinences. Elle me rendait invisible, et j'avais la satisfaction de vous voir servir par des esprits qui l'étaient d'eux-mêmes ou qui se montraient à vous sous diverses formes d'animaux. Bien plus, la fée, en dirigeant vos songes, vous faisait voir ma figure la nuit en idées et le jour par mes portraits, et me faisait vous parler par la voix des songes, comme je pensais et comme je vous aurais parlé moi-même. Vous sûtes confusément mon secret et mes espérances qu'elle vous invitait de remplir, et par le moyen d'un miroir constellé, j'étais témoin de vos conversations, et j'y voyais, ou tout ce que vous imaginiez dire, ou tout ce que vous pensiez. Cette situation ne suffisait pas pour me rendre heureux, je ne l'étais qu'en songe, et mes infortunes étaient réelles. L'amour extrême que vous m'aviez inspiré m'obligeait à me plaindre de la contrainte où je vivais. Mais mon état fut bien plus triste quand je m'aperçus que ces beaux lieux n'avaient plus de charme pour vous. Je vous voyais verser des larmes qui me perçaient le cœur et pensèrent me perdre. Vous me demandâtes si j'étais seul ici. Peu s'en fallut qu'abandonnant ma feinte stupidité, je ne vous fisse des serments pour vous en assurer. Ils eussent été dans des termes dont vous auriez été étonné, et ils vous eussent fait soupçonner que je n'étais pas si grossier que je le voulais paraître. J'allais même vous le faire connaître, lorsque la fée, invisible pour vous, s'offrit à mes regards. Par son air menaçant qui m'épouvanta, elle trouva le secret de me faire taire. De quel moyen, ô ciel, se servit-elle pour m'imposer silence? Elle s'approcha de vous le poignard à la main, et me fit signe que le premier mot que je prononcerais vous coûterait la vie. J'en fus si effrayé que je repris naturellement la stupidité qu'elle m'ordonna d'affecter. Je n'étais pas au bout de mes peines. Vous me témoignâtes avoir envie d'aller chez votre père. Je vous le permis sans balancer. Pouvais-je vous refuser quelque chose? Mais je regardais votre départ comme le coup de la mort, et sans les soins de la fée, j'y aurais succombé. Pendant votre absence, cette généreuse intelligence ne m'abandonna point. Elle me préserva de ma propre fureur. Je m'y serais livré, n'osant me flatter que vous revinssiez. Le temps que vous aviez passé dans ce palais rendait mon premier état plus insupportable qu'il ne l'avait été d'abord, puisque je me trouvais le plus malheureux de tous les hommes, sans espérance de pouvoir vous le faire connaître. La plus douce de mes occupations était de parcourir les lieux où vous alliez le plus souvent, mais mon chagrin redoublait en ne vous y voyant plus. Les soirs et les heures où j'avais le plaisir de vous entretenir un moment redoublaient mon affliction et m'étaient encore plus cruelles. Ces 2 mois, les plus longs de ma vie, finirent enfin, et je ne vous vis point revenir. Ce fut alors que mon malheur se trouva à son dernier période, et que la puissance de la fée fut trop faible pour me garantir de succomber à mon désespoir. Les précautions qu'elle prit pour m'empêcher d'attenter à ma vie furent inutiles. J'avais un surmoyen qui excédait son pouvoir. C'était de ne plus prendre de nourriture. Par la force de son art, elle eut encore la puissance de me soutenir quelque temps, mais ayant épuisé tous ses secrets sur moi, je m'affaiblissais peu à peu. Enfin, je n'avais plus qu'un moment à vivre, quand vous vîntes m'arracher à la mort. Vos précieuses larmes, plus efficaces que tous les cordiaux des génies déguisés, retinrent mon âme prête à sortir. En connaissant par vos plaintes que je vous étais chère, je goûtai une félicité parfaite, et elle fut à son comble lorsque vous m'acceptâtes pour époux. Cependant, il ne me fut pas encore permis de vous découvrir mon secret, et la bête fut obligée de se coucher auprès de vous, sans oser vous faire connaître le prince. Je fus à peine sur votre lit, que mes impatiences cessèrent. Vous savez qu'aussitôt je tombai dans une léthargie qui n'a fini qu'à l'arrivée de la fée et de la reine. En m'éveillant, je me suis trouvé tel que me voilà, sans pouvoir dire de quelle sorte mon changement s'est fait. Vous avez été témoin du reste, mais vous n'avez pu juger qu'imparfaitement de la douleur que me causait l'opiniâtreté de ma mère, qui s'opposait à un hymen si juste et si glorieux pour moi. J'étais résolue, princesse, à redevenir plutôt bête que de perdre l'espoir d'être l'époux d'une personne si vertueuse et si charmante. Quand le secret de votre naissance eut toujours été pour moi un mystère, la reconnaissance et l'amour ne m'auraient pas moins fait sentir qu'en vous possédant, je serais le plus heureux de tous les hommes. » Le prince finit ainsi, et la belle allait lui répondre, lorsqu'elle en fut empêchée par un bruit de voix éclatante et d'instruments guerriers qui, cependant, n'annonçaient rien de sinistre. Ils mirent la tête à la fenêtre, et la fée et la reine, qui revenaient de leur promenade, en firent autant. Ce bruit procédait de l'arrivée d'un homme qui, selon les apparences, devait être un roi. L'escorte qui l'environnait avait toutes les marques de la dignité royale, et lui-même, en sa personne, faisait voir un air de majesté qui ne démentait point la magnificence dont il était accompagné. Ce prince, parfaitement bien fait, quoiqu'il ne fût plus dans sa première jeunesse, montrait qu'il avait eu peu d'égo dans le printemps de son âge. Il était suivi de 12 gardes et de quelques courtisans en habit de chasse, qui paraissaient aussi étonnés que leur maître de se trouver dans un château qui leur était inconnu. On lui rendit les mêmes honneurs que s'il eût été dans ses propres états, et le tout par des invisibles, car ils entendaient des cris de joie et de fanfare, et ils ne voyaient personne. La fée, en le voyant paraître, dit à la reine, « Voilà le roi votre frère, et le père de la belle. Il ne s'attend point au plaisir de vous trouver ici. Il en sera d'autant plus satisfait que, comme vous le savez, il croit sa fille morte depuis longtemps. Il la regrette encore aussi bien que sa femme, de qui il conserve un tendre souvenir. » Ce discours augmenta l'impatience que la jeune reine et la princesse avaient d'embrasser ce prince. Ils arrivèrent promptement dans la cour au moment que lui-même descendait de cheval. Il les aperçut sans les pouvoir connaître, mais ne doutant point qu'elles ne vinssent au-devant de lui, il ne savait quel compliment leur faire, ni de quel terme se servir, lorsque la belle, se jetant à ses genoux, les embrassa en l'appelant son père. Ce prince la releva, et la serrant tendrement entre ses bras, ne comprenait point pourquoi elle lui donnait ce nom. Il s'imagina qu'elle pouvait être une princesse orpheline et opprimée qui venait implorer sa protection et qui ne se servait des termes les plus touchants que pour obtenir l'effet de sa demande. Il était prêt à l'assurer qu'il allait faire en sa faveur tout ce qui dépendrait de lui, lorsqu'il reconnut la reine sa sœur, qui, l'embrassant à son tour, lui présenta son fils. elle lui fit connaître une partie des obligations qu'elle et lui avaient à la belle, et ne lui cacha pas l'affreuse aventure qui venait de se terminer. Le roi loua cette jeune princesse et voulait savoir son nom, quand la fée, l'interrompant, lui demanda s'il était nécessaire de nommer ses parents et s'il n'avait jamais connu personne à qui elle ressemblât assez pour les lui découvrir.
« Si je m'en rapportais à ses traits, dit-il en la regardant fixement et ne pouvant retenir quelques larmes, le nom qu'elle m'a donné m'est légitimement dû, mais malgré ses signes et l'émotion où sa vue me jette, je n'ose me flatter que ce soit ma fille que j'ai pleurée, puisque j'ai vu les marques certaines qu'elle a été dévorée par les bêtes sauvages. Cependant, continua-t-il en la considérant de nouveau, elle est parfaitement ressemblante à la tendre et incomparable épouse que la mort m'a ravie, que je suis flatté agréablement de l'espérance de revoir en elle le fruit d'un hymen charmant dont les chaînes n'ont été que trop tôt rompues.
« Vous le pouvez, seigneur, reprit la fée, la belle est votre fille. Sa naissance n'est plus un secret ici. La reine et le prince savent qui elle est. Je ne vous ai fait venir que pour vous en instruire. Mais nous ne sommes point dans un lieu commode pour faire le détail de cette aventure. Entrons dans le palais, vous vous y reposerez quelques moments, et ensuite je vous raconterai ce que vous désirez savoir. Après la joie que vous aurez ressentie de retrouver une fille si belle et si vertueuse, je vous ferai part d'une autre nouvelle à laquelle vous ne serez pas moins sensible. » Le roi, accompagné de sa fille et du prince, fut conduit par les officiers singes dans l'appartement que la fée lui avait destiné. L'intelligence prit ce temps pour rendre aux statues la liberté de parler de ce qu'elles avaient vu. Comme leur sort avait fait compassion à la reine, elle voulut que ce fût par ses mains qu'elles ressentissent la douceur de revoir la lumière. Elle lui donna sa baguette, avec laquelle la reine, ayant décrit par son ordre 7 cercles en l'air, elle prononça ces mots d'une voix naturelle « Animez-vous, votre roi est sauvé !» Toutes ces figures immobiles se remuèrent, commencèrent à marcher et à agir comme ci-devant, ne se souvenant que confusément de ce qui leur était arrivé. Fin de la 11e partie. Lu par Ezoie, en Belgique, en avril 2010.
Douzième partie de La Belle et la Bête. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. La Belle et la Bête, de Gabrielle Suzanne de Villeneuve. 12e partie. Après cette cérémonie, la fée et la reine retournèrent auprès du roi, qu'ils trouvèrent en conversation avec la belle et le prince. Tour à tour, il leur faisait des caresses, et surtout à sa fille, à laquelle il demanda 100 fois comme elle avait été sauvée des bêtes féroces qu'il avait emportées, sans faire réflexion qu'elle lui avait répondu dès la première fois qu'elle n'en savait rien, et qu'elle avait même ignoré le secret de sa naissance. De son côté, le prince parlait sans être entendu, répétant 100 fois les obligations qu'il avait à la princesse belle. Il aurait aussi désiré prévenir le monarque sur les promesses que la fée lui avait faites de lui en accorder la possession et le prier de ne pas refuser un agréable consentement à son alliance. Cet entretien et ses caresses furent interrompus par l'arrivée de la reine et de la fée. Le roi, qui retrouvait sa fille, connaissait toute l'étendue de son bonheur, mais il ignorait encore à qui il avait obligation de ce précieux avantage.
« C'est à moi, lui dit la fée, et c'est moi seule qui dois vous expliquer l'aventure. Je ne borne pas mes bienfaits à vous en faire le récit. J'ai encore des nouvelles à vous annoncer qui ne sont pas moins agréables. Ainsi, grand roi, vous pouvez marquer ce jour parmi les jours heureux de votre vie. »
La compagnie, connaissant que la fée se préparait à parler, fit comprendre par son silence qu'elle lui donnerait une grande attention. Pour répondre à leur attente, voici le discours qu'elle tint au roi.
« La belle, seigneur, et peut-être le prince, sont les seuls ici qui ne savent pas les lois de l'île heureuse. C'est pour eux que je vais les expliquer. Il est permis à tous les habitants de cette île, et même au roi, de ne consulter que leur goût dans la personne qu'un chacun doit épouser, afin que rien ne s'oppose à son bonheur. Ce fut en vertu de ce privilège que vous choisîtes une jeune bergère que vous rencontrâtes à la chasse. Ses attraits, sa sagesse, vous la firent trouver digne de cet honneur. Tout autre qu'elle, et même des filles élevées en dignité, eussent accepté avec joie et empressement celui de votre maîtresse, mais sa vertu lui fit dédaigner une pareille offre. vous l'élevâtes sur le trône et lui donnâtes un rang duquel la bassesse de sa naissance semblait la devoir exclure, mais qu'elle méritait par la noblesse de son caractère et la beauté de son âme. Vous pouvez vous souvenir que vous eûtes toujours sujet de vous louer de votre choix. Sa douceur, sa complaisance et sa tendresse pour vous égalèrent les charmes de sa personne. Mais vous ne jouîtes pas longtemps du plaisir de la voir. Après qu'elle vous eût fait père de la belle, vous vous trouvâtes obligé de faire un voyage sur vos frontières pour prévenir une apparence de révolte dont vous fûtes informé. Pendant ce temps, vous fîtes la perte de cette chère épouse qui vous toucha d'autant plus que vous joignîtes à la tendresse que ses appas vous avaient inspirée la plus parfaite estime pour ses rares qualités. Malgré sa grande jeunesse et le peu d'éducation que sa naissance lui avait donnée, vous lui trouvâtes une prudence consommée et vos plus habiles courtisans furent étonnés des sages conseils qu'elle vous donnait et des expédients qu'elle trouvait pour vous faire réussir dans tous vos projets. Le roi, qui avait toujours conservé sa douleur et à qui la mort de cette digne épouse était toujours présente, ne put entendre ce récit sans donner de nouveaux témoignages de sensibilité. Et la fée, qui s'aperçut que ce discours l'attendrissait, lui dit « Votre sensibilité me prouve que vous méritiez ce bonheur. Je ne veux pas vous rappeler davantage un souvenir qui ne peut que vous attrister. Mais je dois vous apprendre que cette prétendue bergère était une fée et ma sœur. Informée que l'île heureuse était un charmant pays, sachant ses lois et la douceur de votre gouvernement, elle eut envie de le voir. L'habit d'une bergère fut le seul déguisement qu'elle emprunta pour jouir quelque temps de la vie champêtre. Vous la rencontrâtes dans ce séjour. Ses grâces et sa jeunesse vous touchèrent. Elle s'abandonna sans contrainte à l'envie de savoir si vous aviez autant de charme dans l'esprit qu'elle en trouvait dans votre personne. Elle se fiait à sa qualité et à son pouvoir de fée, qui la mettait quand elle voudrait à couvert de vos empressements, supposez qu'ils fussent jusqu'à l'importunité, et que la condition sous laquelle elle paraissait vous fit présumer que, sans conséquence, vous lui pouviez manquer de respect. Elle ne redoutait point les sentiments que vous lui pouviez inspirer, et persuadée que sa vertu suffisait pour la garantir des pièges de l'amour, elle attribuait ce qu'elle avait senti pour vous à la simple curiosité de connaître s'il y avait encore sur la terre des hommes capables d'aimer la vertu dépourvue des ornements étrangers, qui la rendent plus brillante et plus respectable au vulgaire que sa propre qualité et de qui les secours funestes font souvent donner son nom aux vices les plus abominables. Abusée par cette idée, loin de se retirer dans notre asile général comme elle l'avait d'abord projeté, elle voulut habiter une petite cabane qu'elle s'était faite dans la solitude où vous la rencontrâtes avec une figure fantastique qui représentait sa mère. Ces deux personnes semblaient vivre du produit d'un prétendu troupeau qui ne craignait point les loups, n'étant en effet que des génies déguisés. Ce fut dans ce lieu qu'elle reçut vos soins. Ils produisirent tout l'effet que vous pouviez désirer. Elle n'eut pas la force de refuser l'offre que vous lui fîtes de la couronne. Vous connaissiez toute l'étendue de l'obligation que vous lui deviez, dans le temps que vous croyiez qu'elle vous devait tout, et que vous vouliez bien la laisser dans cette erreur. Ce que je vous apprends, vous êtes une preuve sensible que l'ambition n'eut point de part au consentement qu'elle donnait à vos désirs. Vous n'ignorez pas que nous regardons les plus grands royaumes comme des biens dont nous faisons présent à qui il nous plaît. Mais elle fit attention à votre généreux procédé, et se croyant heureuse de s'unir à un homme aussi vertueux, elle s'étourdit sur cet engagement, au point qu'elle ne fit aucune réflexion au danger dans lequel elle allait se précipiter. Car nos lois défendent directement toute alliance avec ceux qui n'ont pas autant de puissance que nous, surtout avant que nous ayons assez d'ancienneté pour avoir de l'autorité sur les autres et jouir du droit de présider à notre tour. Avant ce temps, nous sommes subordonnés à nos anciennes, et pour que nous n'abusions pas de notre pouvoir, nous n'avons celui de disposer de nos personnes qu'en faveur d'une intelligence ou d'un sage de qui la puissance soit au moins égale à la nôtre. Il est vrai qu'après la vétérance, nous sommes maîtresses de faire quelle alliance il nous plaît. Mais il est rare que nous usions de ce droit, et ce n'est jamais qu'au scandale de l'ordre qui ne reçoit cet affront que rarement, encore est-ce de la part de quelques vieilles fées, qui payent presque toujours cher leur extravagance, car elles épousent de jeunes gens qui les méprisent, et quoi qu'on ne les punisse pas directement, elles le sont suffisamment par les mauvaises façons de leurs époux, de qui il ne leur est pas permis de se venger. c'est la seule peine que nous leur imposons. Les désagréments qui suivent presque toujours les folies qu'elles ont faites, leur ôte l'envie de révéler aux profanes de qui elles espéraient des égards et des soins, nos secrets avantageux. Ma sœur n'était dans aucun de ces cas. Douée de toutes les qualités propres à se faire aimer, il ne lui manquait que l'âge, mais elle ne consulta que son amour. Elle se flatta de pouvoir tenir son hymen secret. Elle y réussit quelque temps. Nous n'avons guère l'usage de nous informer de ce que font celles qui sont absentes. Chacune s'occupe de ses propres affaires, et nous nous répandons dans le monde pour faire du bien ou du mal selon nos inclinations, sans être obligés à notre retour de rendre compte de nos actions, à moins que nous n'ayons eu une conduite qui fasse parler de nous, ou que quelque fée bienfaisante, touchée des malheureux injustement persécutés, n'emporte ses plaintes. Il faut enfin quelque aventure imprévue pour qu'on visite le livre général dans lequel ce que nous faisons se grave de lui-même au moment que la chose arrive. Excepté ces occasions, nous ne devons paraître à l'assemblée que 3 fois l'année, et comme nous voyageons fort commodément, il n'est question pour en être quitte que d'une présence de 2 heures. Ma sœur était obligée d'éclairer le trône, c'est ainsi que nous appelons cette corvée, quand il le fallait. Elle vous préparait de loin une chasse ou un voyage de plaisir, et après votre départ, elle affectait quelque incommodité pour rester seule enfermée dans son cabinet, ou supposée d'avoir besoin d'écrire, ou de se reposer. On ne s'aperçut point dans votre palais, ni parmi nous, de ce qu'elle avait tant d'intérêt de cacher. Ce mystère n'en fut pas un pour moi. Les conséquences en étaient dangereuses, c'est ce que je lui fis connaître. Mais elle vous aimait trop pour se repentir de sa démarche. Voulant même se justifier dans mon esprit, elle exigea que je vinsse vous voir. Sans vous faire de compliments, j'avoue, Seigneur, que si votre vue ne fit pas entièrement approuver sa faiblesse, du moins elle diminua considérablement et augmenta le zèle avec lequel je cherchais à la tenir cachée. Sa prévarication fut inconnue pendant 2 ans, mais enfin elle se découvrit. Nous sommes obligés de faire un certain nombre de bienfaits dans l'étendue générale de l'univers dont nous nous trouvons forcés de rendre compte. Quand ma sœur fut obligée de rendre le sien, elle ne put montrer de faveur que dans l'île heureuse et pour l'île heureuse. Plusieurs de nos fées de mauvaise humeur blâmèrent son procédé. C'est ce qui fit que notre reine lui demanda par quelle raison elle bornait son humeur bienfaisante à cette faible partie de la terre, puisqu'il ne lui était pas permis d'ignorer qu'une jeune fée devait beaucoup voyager pour faire connaître à l'univers quelle est notre puissance et notre volonté. Comme cette loi n'était pas nouvelle, ma sœur n'eut pas de sujet d'en murmurer, ni de prétexte pour refuser d'obéir. Elle promit de s'y conformer. Mais l'impatience de vous revoir, la peur qu'on ne s'aperçût de son absence, l'impossibilité de faire des actions secrètes sur le trône, ne lui permirent pas de s'éloigner assez longtemps et assez souvent pour faire son devoir, et à l'assemblée suivante, à peine put-elle prouver qu'elle eût été 1 quart d'heure hors de l'île heureuse. Notre reine, irritée contre elle, la menaça de détruire cette île pour l'empêcher de violer plus longtemps nos lois. Cette menace la troubla si fort que la moins clairvoyante des fées connut jusqu'à quel point votre épouse portait la sensibilité pour cette île fatale, et la méchante fée qui a donné au prince que voici la monstrueuse figure qu'il a eue s'aperçut à son trouble qu'en ouvrant le grand livre, elle y trouverait un sujet important et capable d'exercer son inclination malfaisante. « C'est là, s'écria-t-elle, que la vérité se découvrira et que nous allons apprendre au vrai quelle est sa conduite. » À ces mots, elle fit voir à toute l'assemblée tout ce qui s'est passé depuis 2 ans et le lut à voix haute et distincte. Toutes les fées firent un bruit étrange en apprenant cette mésalliance et accablèrent ma triste sœur des plus cruels reproches. Elle fut dégradée de notre ordre et condamnée à demeurer prisonnière chez nous. Si la punition de cette faute n'eût consisté que dans la première des peines, elle se fut consolée, mais le second châtiment, plus terrible que le premier, lui fit sentir toute la rigueur de l'un et de l'autre. La perte de sa dignité la touchait peu, mais vous aimant tendrement, elle demanda, les yeux en larmes, qu'on se contentât de la dégrader sans la priver de la douceur de vivre en simple mortel avec son époux et sa chère fille. Ses pleurs et ses supplications touchaient les jeunes vétéranes, et je vis au murmure confit que si dans l'instant on eût recueilli les voix, elle en eût assurément été quitte pour une remontrance. Mais une des plus anciennes, que pour sa grande décrépitude nous appelons la mère des temps, ne donna pas à la reine le loisir de s'expliquer et de faire connaître que la pitié s'était emparée de son cœur comme de celui des autres.
« Ce crime ne doit pas se tolérer !»
s'écria d'une voix cassée cette détestable vieille.
« S'il n'est pas puni, nous serons tous les jours exposés aux mêmes affronts. L'honneur de l'ordre y est absolument engagé. Cette misérable, attachée à la terre, ne regrette point la perte d'une dignité qui l'élevait 100 fois plus au-dessus des rois qu'ils ne le sont au-dessus de leurs sujets. Elle nous apprend que son affection, ses craintes et ses désirs se tournent vers son indigne famille. C'est par cet endroit qu'il la faut punir. Que son époux la regrette, que sa fille, fruit honteux de ses lâches amours, épouse un monstre pour lui faire expier la faiblesse d'une mère qui a eu la faiblesse de se laisser charmer par la beauté fragile et méprisable de son père. » Cette cruelle sentence fit revenir à la rigueur beaucoup de celles qui penchaient vers la clémence. Le petit nombre de celles qui avaient été touchées de pitié n'étant pas assez considérable pour s'opposer à la délibération générale, elle fut exécutée à la rigueur, et notre reine elle-même, dont la physionomie paraissait tournée à la compassion, reprit son air sévère et confirma à la pluralité des voix l'avis de cette mauvaise vieille. Cependant, ma sœur, qui cherchait à faire révoquer un arrêt si cruel pour toucher les juges et excuser son hymen, fit de vous un portrait si charmant qu'elle enflamma le cœur de la fée gouvernante du prince. C'était celle qui avait ouvert le livre. Mais cet amour naissant n'a servi qu'à redoubler la haine que cette injuste fée avait déjà pour votre triste épouse. Ne pouvant résister à l'empressement qu'elle avait de vous voir, elle colora sa passion du prétexte de connaître si vous méritiez qu'une fée vous fît le sacrifice que ma sœur vous avait fait. Comme elle était chargée du prince et qu'elle avait fait approuver cette tutelle à l'assemblée, elle n'aurait osé l'abandonner si l'amour ingénieux ne lui eût inspiré de mettre auprès de lui un génie protecteur et 2 fées subalternes et invisibles pour en répondre en son absence. Après cette précaution, elle ne songea qu'à suivre ses désirs qui la portèrent dans l'île heureuse. Fin de la 12e partie, lue par Ezoy, en Belgique, en avril 2010.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.